Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Xavier Verza, directeur du Centre international Joseph Wrzesinski. Bonsoir.
Bonsoir.
Xavier Verza, le centre que vous dirigez a été créé par le mouvement ATD Quart-Monde, fondé par le père Wrzesinski. Ce centre a une particularité unique au monde puisqu'il regroupe des milliers de documents sur l'histoire et le parcours des personnes démunies en France et à travers le monde. Vous gardez donc des traces de leur vie. On parlera de ce centre plus précisément dans la deuxième partie de cette émission. Mais est-ce qu'on peut d'abord présenter rapidement ce centre international Joseph Wrzesinski? Quelle est sa mission première?
Voilà, j'ai la chance d'être le coordonnateur de ce centre avec deux autres volontaires, François Guillot, qui est français comme moi, et Kisly Joseph, qui est haïtien. Le centre existe parce qu'un homme, Joseph Wrzesinski, lui-même ayant vécu dans la pauvreté, a rencontré des familles reléguées, oubliées, considérées comme des déchets de l'humanité. Et que de cette rencontre, il a voulu créer un courant, un mouvement qui se donne comme seul objectif de ne jamais laisser quelqu'un de côté. Et il a voulu pour cela bâtir sur l'intelligence de ces personnes. Et donc dès le départ, confronté à une société qui les traitait comme des cas d'espèce, John Calbert, comme des familles irrécupérables, il a voulu convaincre une société qui faisait confiance à la science, qui faisait confiance à des faits avérés. Et donc il a cherché à ce que le rejoignent des gens reconnus et à bâtir une compréhension, une connaissance qui soit authentique. Et ce qui fait qu'il a été amené à encourager chacun et d'abord lui-même à garder la trace de ce qu'il découvrait. Presque dès les premières années, dans ce camp de Noisy, où il n'avait à peu près aucun moyen, il y a un enregistreur. Et les réunions sont enregistrées au magnétophone.
Alors, ce camp de Noisy, on va être très spécifique, on va remonter dans le temps. Le père Wrzesinski, un Français d'origine polonaise, prêtre.
Père polonais, mère espagnole, oui.
Alors, il est en France et il décide de s'installer dans un camp, dans un bidonville de Noisy-le-Grand. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui est, je dirais, à la source du mouvement ATD Quart-Monde?
Oui. Il a déjà 39 ans et sa vie d'enfant, qui doit dès son plus jeune âge contribuer à la vie de la famille, il garde les chèvres, et il va servir la messe tous les matins pour une pièce et un bol de déjeuner, mais il dit c'est surtout la pièce qui m'a décidé pour pouvoir aider ma mère. Plus tard apprenti pâtissier, confronté aussi à la difficulté avec ses compagnons, qui découvrent la joque et plus tard la prêtrise.
Mais comme prêtre, donc la joque, jeunesse ouvrière chrétienne.
Exactement. Et plus tard, envoyé par son évêque dans un diocèse rural, il est un homme, à cause de son expérience de vie, très attentif à la situation des choses qui sont dans la plus grande difficulté, des salariés agricoles. On voit à travers les traces qu'on a pu retrouver des passages de gens, de vagabonds qui sont accueillis pour plusieurs jours. Il leur propose de faire le jardin avec lui. Il dit « quand vous reviendrez, les carottes seront poussées, on pourra les partager ». Voilà, mais envoyé par son évêque dans ce camp de sans-logis qui s'appelle le Château de France, hein, tout un programme, là, il fait face à une toute autre réalité qui il dit « je fus ébloui ».
Alors, ce camp de sans-logis, c'est celui de Noisy-le-Grand?
Exactement.
Il se trouvait à quel endroit de Noisy-le-Grand? Puisque aujourd'hui, Noisy-le-Grand est une ville, évidemment, qui s'est développée. Il y a encore des quartiers pauvres à Noisy-le-Grand. Oui. Il se trouvait à quel endroit?
Sur l'emplacement de l'actuelle cité de promotion familiale qui a été construite sur ce camp, à proximité des Hauts-Bâtons. Donc dans un endroit qui est devenu effectivement un quartier beaucoup plus aisé, mais très mélangé encore. Mais à l'époque, c'est vraiment en lisière de la forêt, c'est au bout de la rue Jules Ferry. Enfin, c'est un endroit où, dès que vous donnez votre adresse, on voit d'où vous venez, quoi.
Alors, pourquoi y avait-il ce camp, ce bidonville? La France des années 40, 50, 60 connaissait ces bidonvilles. On pense que la France a toujours été un pays développé, mais au sortir de la guerre, il y avait des bidonvilles, celui de Nantes. alimentaire. Il y a aussi, par exemple, un bidonville du côté de Lyon dont parle Azouz Begag dans le Gaune du Chaaba. Alors, ce camp de Noisy-le-Grand, pourquoi était-il là? Qui étaient les personnes qui étaient installées là-bas?
On connaît peu, aujourd'hui encore, quelquefois on oublie cette histoire, mais toute l'histoire de Paris et de l'Île-de-France est une histoire aussi où sur la lisière, dans ce qu'on a appelé à un moment donné les zones grises, il y a des gens qui vivent dans des conditions extrêmes de dénuement. Je me souviens avoir vu un film, un documentaire de 46 à Aubervilliers. Enfin, et après la guerre, la situation est très difficile, mais ce qu'on a interprété pendant tout un temps comme une situation temporaire liée aux destructions de la guerre, hein, le rationnement, il existe, se poursuit pendant plusieurs années, il persiste. Et quand il y a cet appel de l'abbé Pierre en 54, face à un hiver particulièrement rigoureux et à une grande quantité de gens à la rue, il y a un élan qui se crée et des gens qui sont accueillis dans différents lieux, mais dont la plupart pensent que ça va disparaître très rapidement. Et en fait, parmi ces camps, il y a celui de Noisy, 250 familles, sans doute plus, et qui est créé d'abord sous tente et puis très vite avec des igloos en fibre au ciment, des abris en demi-cercle, en demi-tonneau. Une situation vraiment très difficile, reléguée, mais aussi pas d'eau, pas d'électricité, des latrines communes. Mais ça va durer. Et en fait, il y a des gens qui vont habiter là jusqu'en 71.
Et qui étaient ces familles qui habitaient dans ces maisons en béton, justement, avec des formes cylindriques, l'on voit sur les photos qui se trouvent dans le centre international Joseph Wrzesinski?
Ces familles, elles venaient, c'était une situation diversifiée. D'ailleurs, une partie d'entre elles vont assez rapidement, avec les constructions qui ont lieu à l'époque, retrouver un logement. Il y avait un mélange de populations ouvrières avec une appartenance et une insertion dans le monde ouvrier. Des gens issus, quelques familles, travailleurs immigrés. Mais d'autres bidonvilles comme ceux de la Campa, l'actuelle La Courneuve ou Nanterre en ont beaucoup plus. Là, c'est plutôt des familles françaises et progressivement ne vont rester là que les familles dont personne ne veut et qui vont être perçues du coup comme aussi bien par la préfecture que par la mairie de Noisy-le-Grand comme une nuisance et un fardeau.
Et comment on explique cette situation? Les années 60, les années 70 ont été des périodes où on a construit beaucoup de logements sociaux, des barres d'immeubles, d'ailleurs avec les conséquences parfois négatives que l'on sait dans certains quartiers. Comment on explique que ces familles aient été exclues de ce développement?
C'est toute notre histoire. Hein. L'historien Bronislav Guéremec, dans son livre La potence et la pitié, a retracé des éléments de cette histoire, ou André Guélin plus récemment pour le 19e et le 20e siècle. C'est-à-dire que tout au long de notre histoire, il y a des gens dont on dit « non mais avec eux, on ne peut rien faire ». Les efforts que vous faites échouent parce que, faute de les avoir réellement rencontrés, d'avoir découvert avec ces personnes, avec ces familles, comment avancer dans leur vie, vous leur imposez le plus souvent des solutions dont elles ne peuvent rien faire et qui les mettent, et comme vous vous êtes découragé, vous les mettez de côté en leur attribuant la responsabilité.
Alors, quelle a été l'action du père Wrzesinski auprès de ces 250 familles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était présent, mais j'imagine qu'il était en même temps très actif.
Quand vous me posez cette question, c'est sûr que je pense à ceux qui pour lesquels j'ai beaucoup de reconnaissance, qui à ce moment-là ont rejoint cet homme dont plusieurs sont encore vivants, Huguette Redegel, Gabriel Herpicom, Eugène Nortermans et d'autres, et puis d'autres qui sont disparus comme Francine de la Gorce ou Berriette Corniaud. Mais en fait, cet homme assez surprenant qui continue à me fasciner. D'abord, il fait ce qu'il a toujours fait à travers sa vie, à travers l'expérience de sa mère, qui lui avait dit « regarde toujours plus celui qui est plus malheureux que toi », et qu'il avait vu, sa mère s'occuper de sa voisine, avec qui pourtant les relations étaient très très difficiles. Donc c'est un homme, il s'assoit avec les gens, il parle avec eux, il essaye de comprendre qu'est-ce qui leur tient à cœur, dans quoi ils mettent de l'énergie. Ah, vos enfants, l'avenir de vos enfants, l'école, l'humiliation de vos enfants à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et avec les gens qu'il trouve, il fait des pas. Il n'a pas un projet, une théorie de transformation sociale. Il a une attitude de vie, une conviction, une foi religieuse, et il fait avec les gens qui viennent, qui sont de tous horizons, des athées, des juifs convertis, des gens de tout parcours politique, philosophique, et il essaie d'avancer en bâtissant un travail commun et une connaissance. Dès le début, la question de la connaissance et d'être sérieux dans ce travail de connaissance est essentielle pour lui.
Qu'est-ce que ça signifie, bâtir quelque chose autour de la connaissance ?
De ce qu'on sait, c'est que bon, dès le départ, il garde des traces. Et puis alors, il reprend assez vite quelque chose qu'il a découvert auprès d'un projet en Grande-Bretagne, parce que c'est un homme qui sait qu'il faut apprendre d'autres et être en lien avec d'autres. Donc très vite, avant même d'ailleurs d'être à Noisy, il avait voyagé, il avait été dans le sud de l'Italie, découvrir la condition d'ouvrier. Plus tard, il va aller en Inde, mais de la Grande-Bretagne, il retient l'idée d'écrire, et il propose à ces jeunes qui l'ont rejoint de prendre un temps chaque jour, chaque soir, pour relire leur expérience. Il s'appuie d'une certaine manière aussi sur son expérience de l'Action catholique ouvrière et de l'Église qui l'a formée, voire juger agir. Donc il leur propose d'écrire, lui-même d'ailleurs relit ses écrits, mais comme un exercice qui déjà leur permet de reprêter attention à ce qu'ils ont vécu dans la journée, comment l'enfant leur a dit bonjour, comment ils ont été accueillis, puis eux-mêmes comment ils l'ont vécu. Donc c'est la base de cette connaissance, c'est l'être humain qui rencontre l'autre et qui regarde avec attention.
Donc garder des traces, Xavier Verzin, pour le père Wresinski et tous les permanents, les volontaires du mouvement qui sont arrivés par la suite, c'est prendre des notes, enregistrer des conversations, c'est ça garder des traces ?
Oui, c'est ça, c'est prendre des photos. Aujourd'hui, au centre Joseph Wresinski, nous avons des centaines de milliers de clichés, de clichés qui ne sont pas des clichés volés, qui ne sont pas pour un voyeurisme des plus pauvres, mais quelque chose qui permet de comprendre, de saisir l'élan de l'être humain, sa résistance face à l'humiliation, au mépris, au fait que toujours derrière l'être que souvent, aujourd'hui encore, dans nos journaux, on voit assis, allongé sur une marche. Chaque fois qu'on veut faire un sujet sur la mendicité, sur les gens à la rue, on monte des clichés de gens dont il est très très difficile de voir l'élan, la beauté. Et c'est ça aussi qu'il pousse à garder. C'est les dessins des enfants. Il en fait les premières cartes de vœux. C'est ce que les gens racontent pour que ça soit transmis à d'autres. Mais surtout, c'est que dès le départ, c'est comprendre, connaître, mais c'est aussi connaître avec la science. Et il invite des scientifiques, Jean Labins, sociologue, Christian De Boys, psychologue, Jules Clanfert, et c'est avec eux qu'il fait les premiers livres.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel avec Xavier Verza. Vous êtes le coordinateur du Centre international Joseph Wresinski. On a parlé dans la première partie de cette émission de Noisy-le-Grand, ce bidonville où le prêtre qui est à l'origine d'ATD Carmonde a commencé à garder des traces, et c'est ce qui est à l'origine désormais de ce centre dont vous êtes l'un des coordinateur. Qu'est-ce qu'il recèle exactement, ce centre qui est situé à Baillet en France ?
Voilà, c'est à 30 minutes au nord de Paris. Ce centre, c'est un centre de recherche, de mémoire et de formation. De recherche parce que, dès le début, donc, on ne peut pas rejoindre les pauvres, et en particulier les plus exclus d'entre eux, sans un véritable travail de connaissance. De connaissances et d'intelligence qui nous lie aux personnes. C'est aussi une démarche de relation humaine.
Donc ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que les volontaires, alors il y a des termes très spécifiques pour les personnes qui sont impliquées dans le mouvement ATD Carmonde, vous allez nous en parler tout à l'heure, en tout cas les militants, les adhérents, les volontaires du mouvement collectent des informations auprès des personnes démunies. Il y a aussi notamment des récits de vie, ça c'est très important, ces récits de vie.
Ça c'est le fruit, mais c'est vrai que là, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la démarche. C'est-à-dire que ça n'est pas un effort d'accumulation, d'être le lieu où on aurait rassemblé toutes les traces de l'histoire des pauvres. C'est peut-être aussi ça, mais c'est avant tout le lieu d'un carrefour, d'une recherche. Mais qui sont les très pauvres aujourd'hui? Et non seulement qui sont-ils, mais quels sont les chemins qui nous permettent de se rencontrer entre riches et pauvres en humanité? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Quelles sont les conditions d'une participation? Donc c'est un centre de recherche et de mémoire. Et la recherche, c'est par exemple ce travail qui a été mené pendant 3 ans dans 8 pays, qui a permis la collaboration de plus d'un millier de personnes, une coécriture de textes avec 300 personnes, y compris des gens vraiment marqués par la misère, autour de la question: en quoi la misère est-elle une violence? À quel silence nous contraint la misère? Comment rompre ce silence? Donc ça, c'est un travail très, très approfondi qui a été fait par une petite équipe dont le secrétariat se trouvait dans le centre de recherche Joseph Brzezinski. Alors c'est aussi une mémoire parce que c'est une fierté. Là, on accueille dans quelques jours un groupe de membres d'ATD Quart-Monde dont une partie vivent la grande pauvreté. Et chaque fois que des gens viennent comme ça, que ça soit, je repense à Moustapha Diop du Sénégal ou Monsieur Georges du Liban, mais ils nous disent, mais ça, ce lieu, c'est important. Au fond, nous, nos vies, on est balayées, on doit déménager d'un lieu à l'autre, on peut pas garder de traces, mais on voit ici que c'est pris au sérieux. Au fond, notre vie est prise au sérieux.
Parce qu'il faut préciser que l'histoire officielle, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. Vous racontez dans ce centre, avec ses archives, l'histoire des exclus, c'est-à-dire que ces personnes ne sont souvent que des documents administratifs. Elles ne sont réduites qu'à des actes, des certificats. Vous, c'est la part de l'humain. C'est ça que vous essayez de faire aussi?
Oui, on n'est pas pionnier de ce point de vue-là. D'autres avant nous ont cherché à capter les traces, ce qui révélait l'humanité, l'épaisseur de la vie de gens dont on ne parle pas ou peu dans l'histoire, que ça soit Guéremec ou Arlette Farge avec ses travaux sur le 18e, je crois, et les registres de police, comment on découvre de quelle manière une société parle de ses pauvres. Mais c'est vrai que là, c'est une connaissance en direct. Ce sont les écrits quotidiens de ces membres du mouvement qui relatent au quotidien leur rencontre avec des gens très pauvres. C'est des écrits autobiographiques de personnes qui ont souhaité à un moment donné partager leur histoire. Je pense à Monsieur Gérard Lecointe qui a écrit un livre de pierre en pierre pour raconter son parcours, toutes les années passées dans la forêt et toute la solitude et la détresse dans laquelle il vivait, et comment petit à petit, dans un long chemin, il a pu entrer en lien avec d'autres et trouver sa place et apporter sa pierre dans ce mouvement ATD Quart-Monde. Donc c'est toutes ces traces, mais toutes ces traces d'une rencontre, parce que c'est pas juste l'histoire des très pauvres, c'est au fond comment Monsieur Boutros-Boutros-Ghali a écouté avec attention en 96 à Genève au Palais des Nations Unies des délégués du quart monde de différents continents et comment est-ce que cette parole a trouvé son chemin au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour arriver à un texte adopté l'an dernier par exemple. C'est aussi cette histoire-là qui est importante.
Alors il y a aussi les histoires personnelles. J'ai lu dans le journal Le Monde, il y a eu un article qui a été consacré au Centre international Joseph Brzezinski. Dans cet article, on apprend que certains enfants retrouvent aussi leur propre histoire en venant dans le centre, car il y a l'histoire de leur famille qui est archivée dans ce centre.
Oui, cela peut arriver, mais en même temps, on ne cherche pas à être le lieu où chaque personne pourrait ainsi rechercher son histoire personnelle, même si ça peut avoir son importance. C'est aussi une histoire collective. C'est aussi, je pense à par exemple des jeunes étudiants de l'Université Paris 13 qui font un blog sur la Campa, sur ce bidonville qui était sur l'actuel site du parc de la Courneuve, et qui sont venus chercher des photos, qui ont essayé de resituer ce qu'ils comprenaient de l'histoire de ce bidonville dans les années 60, un des premiers lieux où on a été en dehors de Noisy-le-Grand. Et une personne de Malaga, Espagne, voit ces photos et écrit un petit mot en espagnol sous le blog pour dire « Ah, mais je reconnais, c'était voilà, j'étais là avec mes parents. » Donc c'est aussi ce lien-là, c'est se resituer dans une histoire de courage, que ce soit dans la banlieue de Beyrouth, à côté de Liège, à Manega au Burkina Faso ou ailleurs. C'est impressionnant de voir au fond que des personnes qui marquées par la misère dans telle ou telle culture, mais se retrouvent dans une histoire partagée de résistance, de courage, de faire face, de voir les liens familiaux brisés. Hein. Dans tous nos pays, quand même, la misère casse les liens familiaux de différentes façons. Dans nos pays européens, on continue encore à aboutir à une situation où on ne sait pas comment à soutenir les familles dans la façon d'élever leurs enfants, et on ne voit pas d'autre solution que de les placer. Ça reste une énorme souffrance pour les familles. Dans d'autres continents, c'est parce qu'on voit partir ses enfants, parce que plutôt que de les voir mourir, oui, on les laisse partir avec quelqu'un d'autre, oui, on voit le jeune essayer tenter sa chance à la ville ou tenter de partir pour traverser les mers, mais partout, c'est cette expérience à la fois de courage et qui détruit la personne aussi, qui se trouve là et dans lequel des gens de différents horizons peuvent se retrouver, se reconnaître.
Vous avez accès à des documents qui proviennent du monde entier. Ce centre international regroupe des documents venant de quel pays, tous les continents.
Le mouvement donc a commencé en Europe et très vite était présent aux États-Unis, et aujourd'hui il est présent dans une trentaine de pays dans le monde, et puis à travers le Forum du refus de la misère, qui est un courant de soutien, de liens, d'amitié avec des personnes qui poursuivent ce même objectif, ne laisser personne de côté, ça nous met en lien avec des correspondants dans une centaine de pays. Donc c'est pas le monde entier, mais et c'est modeste, et c'est un effort qui repose pour une grande part par l'énergie et le bénévolat de gens qui sont venus par exemple nous aider au centre Joseph Wrzinski, qui imaginaient peut-être de trier des livres pour nous et qui se retrouvent à s'occuper d'enregistrement vidéo alors que c'est pas leur compétence, mais qui avec beaucoup de simplicité se disent ça vaut la peine. Un autre homme, un ingénieur avec beaucoup de compétences qui restitue les enregistrements sonores, qui fait en sorte que on puisse les sauvegarder dans la durée. Voilà, c'est des gens de 25 à 92 ans. Voilà, et donc c'est pas, autrement dit, c'est pas le centre, c'est pas un centre qui aurait de multiples moyens pour faire tout savoir sur la pauvreté dans le monde. C'est loin de là. C'est un effort très très limité, mais très déterminé pour surtout que le sens de ces vies, le sens de ce courage au quotidien des gens qui n'est pas vu, qui ne peut pas être vu parce qu'il demande un long cheminement, il demande une rencontre en profondeur. Et c'est pour ça que Joseph Wrzinski a voulu créer un volontariat permanent, parce qu'il voyait bien que nos vies sont tellement éloignées de la vie des gens contraints au silence sans arrêt, qui subissent, qui sont balayés, qui ne sont jamais compris, qui doivent apprendre à se taire. Là, je relisais dans cette recherche une maman qui explique, voilà, moi avec les travailleurs sociaux, j'ai compris que je dois apprendre à fermer la bouche. Parce que si je ne garde la bouche ouverte, je ne sais pas ce qui va sortir de ma bouche et que ça va empirer ma situation. Donc voilà, moi j'ai...
Alors, ça c'est terrible ce que vous dites.
C'est terrible, mais donc vous mesurez du coup le chemin qu'il faut faire à des gens qui ne viennent pas de ce milieu, comme moi.
C'est-à-dire que les travailleurs sociaux peuvent être parfois dangereux s'ils interprètent mal une parole venant d'une personne démunie.
Il y a beaucoup de souffrance aussi chez les travailleurs sociaux, mais ils sont ceux qui sont délégués par nos sociétés, souvent, ils sont souvent les interlocuteurs principaux de familles très pauvres. Et ils sont aussi questionnés et poussés par une société qui, ne connaissant pas la situation de ces familles, croit trouver une sécurité en poussant à ce qu'on place les enfants. Mais on n'a pas toujours imaginé autre chose. Et ça reste encore vrai. Je peux pas m'expliquer autrement là une actualité d'aujourd'hui où il y a un projet de loi qui vise à retirer les allocations familiales aux parents dont les enfants sont placés. Sous une perspective un peu opérationnel, on peut se dire, bah oui, c'est plein de bon sens. Au fond, les gens n'ont plus leurs enfants, donc pourquoi continuer à leur verser une allocation? Mais quand on regarde du point de vue des familles les plus pauvres, qui sont déjà dans des situations financières absolument impossibles, dans l'endettement permanent, et leur retirer ce qui représente au niveau budgétaire une toute petite fraction des sommes qui sont consacrées, par exemple, au placement des enfants, c'est encore un peu affaiblir leur capacité à rebondir, à avancer. Et ça, on est témoin que cette capacité est là. Au fond, si ce centre existe, c'est pour montrer que le changement est possible. C'est pour Monsieur Lecointe, quand il était interviewé là il y a quelque temps au centre, il redisait ça. Au fond, voilà, moi, ma vie, ça prouve que c'est possible. J'aurais jamais pu imaginer faire le chemin que j'ai fait. C'était vraiment hors de portée. Et pourtant, je l'ai fait et j'ai même écrit un livre. Mais c'est formidable. J'ai accompli quelque chose dans ma vie. Mais c'est le, au fond, non pas garder la trace d'histoire des pauvres, mais montrer que un autre monde est possible et pas en théorie, dans la vie de gens, ça s'inscrit dans la vie de gens, il y a des transformations qui sont possibles. C'est ça le but de ce centre.
Alors, Xavier et Verza, vous parlez de transformation possible de la vie des gens. Vous avez parlé tout à l'heure des volontaires permanents. ATD Quart-Monde a une particularité que peu de Français connaissent, je pense. Certains de vos adhérents, que vous appelez donc des volontaires, décident d'habiter dans les quartiers les plus pauvres de France et dans d'autres pays du monde. Ils viennent en famille, avec leurs enfants, partager pendant de longues années le quotidien des personnes les plus fragiles socialement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ah, ça me fait bien du plaisir de parler de mes compagnes et compagnons volontaires de tous horizons. Là, je pense à Hani, à Mansour, à Gendouz, à Abdallah, à Jar, et puis ceux qui sont à côté de moi aujourd'hui, Carmen Martos d'Espagne, qui a partagé pendant des années la vie de ceux qui ramassent très durement les olives en bas de l'Espagne. De tous horizons, certains qui ont pu faire des études, d'autres pas du tout. Au fond, ils sont dans la lignée de ceux qui, ne sachant pas du tout où ils allaient, ont rejoint ce Joseph Brzezinski, ce prêtre bourru, passionné, incompris de son entourage, et qui a su faire confiance à ces jeunes hommes et à ces jeunes femmes pour expérimenter, pour créer un jardin d'enfants, une bibliothèque, permettre à chacun d'exprimer le meilleur de lui-même au service des plus rejetés. Et voilà, notre histoire, elle n'est faite que de ça, une tentative de se lier dans la durée à un peuple relégué. Mais nous ne sommes pas les seuls. Avec les membres du mouvement, c'est agir à t'aider, c'est agir tous pour la dignité. Donc c'est rejoindre cette action du quotidien qui est d'abord le fait des familles très pauvres. Rien n'aurait été possible sans la confiance des familles en grande pauvreté, celle du camp de Noisy et par la suite toutes celles que nous sommes amenés à rencontrer, et sans leur stimulation, sans leur encouragement.
Donc cette transformation que veut ATD Quart-Monde, c'est les plus démunis qui sont transformés par peut-être la rencontre avec les volontaires. Les volontaires également sont transformés par la présence des personnes démunies.
Absolument, et tout ça aussi n'est possible que parce que d'autres autour nous soutiennent. Je pense à cet ami archiviste professionnel qui a fait toute une carrière au ministère de la Culture, qui est aujourd'hui à nos côtés pour nous conseiller sur la manière de conserver nos archives, et bien d'autres qui, dans leur vie quotidienne, sans pour autant faire ce qu'on appellerait du bénévolat, se posent sérieusement la question « mais qui sont autour de moi les gens qui sont en risque d'exclusion ? Et qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier, dans mon entreprise, dans mon syndicat pour que ça change ?»
Mais la démarche de ces volontaires est quand même assez révolutionnaire, il faut quand même le souligner. On est dans un monde où certains parents cherchent à éviter telle ou telle école qui a mauvaise réputation pour leurs enfants. Les volontaires du mouvement ATD Quart-Monde vont spécifiquement dans les quartiers où personne ne veut aller, sauf les gens qui n'ont pas d'autre choix que d'y vivre. C'est une démarche qui est très exceptionnelle aujourd'hui en France.
Oui, comme est exceptionnelle la démarche de familles elles-mêmes marquées par la pauvreté et qui décident de rester dans des quartiers dont ils pourraient aujourd'hui bouger parce qu'ils ne veulent pas laisser en arrière des gens qui sont encore plus en difficulté. Mais c'est vrai, c'est aujourd'hui le cas. Ce qui est très encourageant, c'est de voir que de plus en plus de jeunes couples, par exemple, qui ne sont pas volontaires permanents, qui ont leur profession, mais décident aussi de prendre ce même chemin et pour quelques années de vivre dans des quartiers défavorisés. Et ils le peuvent parce qu'ils sont aussi, ils se soutiennent les uns les autres, ils se retrouvent régulièrement.
La mixité sociale, c'est une des solutions pour stopper la misère, pour la freiner, la progression de la misère.
Je suis pas sûr si j'aime le mot parce que S'il s'agit uniquement d'être côte à côte, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai vécu comme jeune professionnel dans une cité comme celle-là, et à Grenoble, c'est le fait de chercher les conditions de la rencontre, c'est chercher à faire des choses ensemble. Si on est côte à côte et puis qu'on se croise pas, tôt ou tard, ça va devenir
alors
impossible.
Alors concrètement, est-ce que vous avez des exemples de ce que font ces volontaires quand ils sont dans tel ou tel quartier difficile? Ils montent des bibliothèques de rue. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour ces familles qui décident de s'installer dans ces quartiers?
C'est lié des... Enfin, là, je pense à un couple d'amis qui est dans une cité à Marseille. C'est tout simplement saisir les occasions de la vie pour se connaître. Il y a une naissance, il y a le bébé qui est attendu. Ben, c'est ce jeune dont on sait par ailleurs qu'il est pris dans une vie qui va sans doute lui amener beaucoup d'ennuis, ben, qui est là, attentif à la maman, attentif à la naissance de cet enfant. Ça part de là. Après ça... Il y a des projets, il y a un festival des savoirs, il y a une bibliothèque de rue, mais au service d'une relation. L'essentiel là-dedans, c'est la relation, c'est le fait qu'il y a une compréhension mutuelle des êtres humains qui font qu'ils se disent « Ah, on peut faire quelque chose ensemble ».
Alors, nos auditeurs sont peut-être en train de se poser la question, mais vous êtes très différent d'autres associations comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, le Secours Catholique. Il n'y a pas de distribution d'aide dans votre mouvement?
Ça, c'est vrai. Le Père Joseph avait trop souffert de l'assistance pour pouvoir lui-même la poursuivre. Et c'est un des premiers actes qu'il pose à Noisy-le-Grand, c'est d'en faire partir les 27 associations charitables qui distribuaient les unes de la nourriture, des autres des vêtements ou du charbon. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui nous distingue, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous rapproche. Dans toutes ces associations, quels que soient les modes qu'elles utilisent, il y a un souci de l'homme. Alors la question, c'est est-ce que ce souci de l'homme, cet élan vers la personne humaine dont on voit bien qu'elle est blessée, atteinte, rejetée, est-ce qu'elle s'accompagne de l'intelligence? Il y a pas l'amour peut faire beaucoup de bêtises, nous dit Joseph Brzezinski. Et si le pauvre n'entre pas dans l'intelligence de ses semblables, il reste aussi en dehors de ses cités. Et donc c'est cet travail de l'intelligence, d'une vraie connaissance qui nous amène par exemple à trouver que vouloir maintenir un fonds d'aide européen financé par le budget communautaire pour distribuer la nourriture, ça n'est pas une ambition de lutte contre la pauvreté dans notre continent européen. On a aujourd'hui officiellement 80 millions de personnes dans la pauvreté. Il faut une autre ambition.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Dernière partie de Pluriel en compagnie de Xavier Verza, coordinateur du Centre international Joseph Brzezinski. L'une des particularités d'ATD Quart-Monde, c'est donc le choix que vous avez fait de mettre l'accent sur la culture. Vous mettez en place par exemple des bibliothèques de rue, vous avez fondé une université populaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi quel est le sens de cette démarche en faveur de la culture?
La culture, c'est la vie de l'homme, c'est son projet, c'est sa famille, c'est son horizon, c'est sa mémoire. Donc c'est ce qui, quand on l'atteint, quand on le détruit, on l'atteint très en profondeur. Donc c'est ce lien humain à travers la culture, il est essentiel. Donc c'est permettre aussi l'éducation, c'est permettre de pouvoir avoir sa place parmi les autres hommes. Donc dès le début, cette question de la culture était centrale. En bibliothèque de rue, bah, c'est tout simple, c'est où qu'on soit, aller déployer une natte ou une couverture dans un coin de la cité, y poser des livres, s'asseoir avec les enfants et surtout être attentif à ceux qui ne viennent pas ou qui envoient des cailloux, parce qu'il faudra du temps avant qu'ils viennent nous rejoindre sur la natte, parce que leurs parents leur ont dit, tu sais, reste là ou va pas trop avec les autres, on sait pas ce qui peut se passer. Donc il faut établir le lien, s'enthousiasmer autour de découvrir l'imaginaire, raconter les contes, les histoires du monde. L'ordinateur permettre de participer à des projets, dessiner. Et ça crée du lien avec les enfants, avec leur famille. l'Université populaire Quart-Monde, c'est permettre aux intelligences de se déployer, c'est permettre aux personnes de mettre des mots sur leur expérience, de faire l'expérience que je parle et on m'écoute. On m'écoute sans me couper la parole. On m'écoute en ayant l'air de porter attention à ce que je dis. Mais c'est incroyable, ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est poursuivre cette expérience ensemble, dans un dialogue, de façon à ce que peu à peu les gens puissent resituer leur propre expérience avec celle des autres aussi et pousser plus loin ce qu'ils portaient souvent de plus profond depuis déjà leur enfance, de leur vision du monde, leur vision d'un monde où chacun a sa place, où l'être humain qui est devant toi, comme dit monsieur Michel Brognier de Belgique, c'est un autre être humain comme toi. Donc tu le regardes comme ça et tout change. Et cette parole, elle vient d'un homme qui fait partie de ceux dont nous parlions tout à l'heure, qui n'a pas eu d'enfance, qui nous a dit dans cette recherche que nous avons menée ensemble, dans son intervention, il disait, pour expliquer dans quel silence il était plongé, il est avec sa sœur et puis on lui dit tu vas aller à la mer, un quart vient les chercher. Il n'y avait que les garçons. On a été 3 semaines à la mer, ma sœur est rentrée dans le car car elle se demandait où j'allais. On l'a fait sortir en lui disant que les filles iraient après. Ma sœur avait 8 ans et moi 9 ans. Elle m'a serré très fort, c'était la séparation et moi je ne le savais pas. Pour moi, ma sœur le sentait parce qu'elle était montée dans le car. On l'a adoptée et moi on ne m'a pas adoptée. Et voilà, c'est toute une vie avec cette séparation, cette incompréhension. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir vivre avec cette souffrance, entrer en relation avec les autres et que ça change. Parce qu'au fond, les universités populaires Quart-Monde, c'est un lieu où les professeurs ne sont pas ceux d'habitude. Les professeurs, là, ce sont ceux qui ont cette expérience de la grande pauvreté et qui, à travers leurs questions, leur révolte, quelquefois leur énervement, vont nous dire « Mais attendez, là, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas ça !» Voilà, c'est ça notre vie. Je pense à cet homme qui, dans une rencontre exceptionnelle de l'Université populaire Quart-Monde Île-de-France, là récemment, à Paris, à la Sorbonne, on était accueillis par Madame Lazergue, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui étouffait de mais parce que sa vie sous tutelle, c'est insupportable. Et voilà, il nous remettait dans le fil. Ben c'est ça l'Université populaire Quart-Monde, c'est permettre aux gens de partager leur expérience et que ça éclaire d'autres citoyens qui se disent « Ah, c'est comme ça, eh ben, on va avancer avec ça ».
Vous avez accès dans ce centre international Joseph Rezinski à des milliers de documents, des archives exceptionnelles. Est-ce que la pauvreté a changé ces dernières années en France ? Des enquêtes montrent qu'il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants, mais aussi des travailleurs pauvres. C'est ce que vous constatez également sur le terrain à ATD Quart-Monde ?
Quand vous m'avez parlé de ces milliers de vies, là, tout d'un coup, je pensais à Monsieur Sarkis de la banlieue de Beyrouth, parce que ces histoires, bien sûr, nos sociétés, elles évoluent. Il y a des moments de crise économique, des gens qui étaient dans une sécurité relative matérielle, eux-mêmes se trouvent confrontés à l'endettement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que partout dans le monde, à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui disent « ça n'est pas possible, on ne peut pas laisser vivre ainsi des gens ». Et je pense à ce monsieur Sarkis, parce qu'il est à l'origine d'un projet avec lequel on est en lien depuis des années, qui s'appelle Beitouna, ma maison là, près de Beyrouth. Et ce monsieur Sarkis est venu voir une femme, Sœur Thérèse, en lui disant « voilà, il y a tel jeune là qui reste là, allongé, et on peut pas ne rien faire ». Et ça a bousculé cette femme, et ensemble, ils ont commencé un projet avec tellement peu de moyens, mais pour se dire comment on va créer un lien avec ceux dont même les associations supposées aider ne peuvent plus, quoi. Et voilà, c'est ça l'histoire précieuse. Alors après, c'est important de compter pour avoir un peu, mais compter, c'est un danger. Aujourd'hui, l'Union européenne se dit, bon, on va diminuer de 20% le nombre de pauvres. Mais ça veut dire quoi? On a un chiffre, c'est à un côté rassurant. Mais en même temps, ça veut dire, on dit d'avance aux 80% d'autres, c'est un quart, trois quarts, 25, on va diminuer de 25%, on va sortir 20 millions de personnes, d'Européens, de la pauvreté. Ça veut dire à 60 autres millions, ça ne sera pas votre tour. Et on est dans cette logique de compte et de chiffres en permanence. On perd le fil de « avons-nous le projet d'aller au bout de cette conviction de tout homme est un homme ?» Zo Kweso, c'est au cœur de la constitution de la République centrafricaine, Barthélemy Bodanga, 1959. Mais C'est ça, Vrezinski, ce qu'il guide. C'est, voilà, tout homme est un homme, et si on veut aller au bout de ça, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il faut être tenace.
Parce Vous aviez fait des propositions lors de la dernière élection présidentielle en France et des législatives. Voilà, est-ce que ATD Quart-Monde a la solution pour éradiquer la misère?
Alors moi, je ne suis pas aujourd'hui dans l'équipe, dans l'équipe du mouvement en France. Je suis plutôt dans cette question de la recherche et de garder la mémoire du Quart-Monde au niveau international. Ce que j'entends de nos amis, c'est que voilà, c'est pas facile. Aujourd'hui, un des grands chantiers, c'est l'école. Allons-nous continuer d'accepter une école qui laisse sortir chaque année près de 150 000 jeunes sans qualification, des dizaines de milliers de jeunes qui ne savent pas lire et écrire, et ça n'est pas d'hier, hein, c'est de tout temps. On tend à l'oublier, à dire ah non mais c'est un phénomène contemporain, non mais l'illettrisme c'est une réalité qui s'est imposée aux membres du mouvement ATD Quart-Monde dès le camp de Noisy-le-Grand, parce qu'on reprochait aux parents de ne pas garder le lien avec leurs enfants placés, et ils ont fini par dire aux volontaires mais comment le pourrions-nous, nous ne savons pas écrire. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les cartes? Donc voilà, c'est cette connaissance-là qui reste toujours indispensable, parce que sinon on ne sait pas faire. Et pour l'école, si on veut la changer, ben, il faut vraiment prendre les moyens d'accueillir à égalité les parents marqués par la galère, par l'exclusion, et de se dire tiens, mais comment on va faire une sortie d'école, un projet d'école qui vraiment fasse une place et pas et qui crée pas des conditions de nouvelles exclusions. On fait une sortie, ça coûte 8 euros. Ben oui, mais 8 euros, c'est très très difficile, 8 euros par les temps qui courent. Donc, on n'y va pas et on dit, ben non, on peut pas, ou il est malade, ou on trouve toutes sortes d'échappatoires. Mais au fond, la réalité, c'est que l'enfant, il sait très bien que voilà, il est pas avec les autres. Et c'est ça qui doit changer. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on a proposé grâce avec d'autres partenaires dans cette petite plaquette, là, construire ensemble l'école de la réussite de tous, la plateforme sur l'école. Et c'est notre outil de dialogue aujourd'hui avec les parlementaires, avec les partenaires de l'éducation pour que bâtir une école de la coopération entre les enfants et une école où tous les parents ont leur place.
Vous avez mentionné tout à l'heure le Liban à deux reprises. ATD Quart-Monde est présent dans le monde arabe, au Proche-Orient.
On a une longue histoire de liens, d'abord parce que dès le début, au camp de Noisy, il y a des gens originaires du Maghreb, à la Campa encore plus, où Bernard Corniaud et d'autres volontaires vont s'installer peu de temps après. Et parmi notre corps volontarial, ce volontariat permanent de 450 personnes, il y a un certain nombre de gens originaires de ces régions. J'ai nommé quelques-uns des prénoms tout à l'heure. Mais après ça, tout le chemin avec un pays ou une région du monde, c'est un long cheminement. Pour donner un exemple, Eduardo et Mariana sont un couple de volontaires brésiliens qui, avec leurs deux enfants, sont allés s'installer au Brésil. Et c'est la première implantation au Brésil il y a 6 mois. Le père Joseph avait préparé un jeune volontaire pour partir au Brésil il y a 35 ans. L'avion, il a eu un accident juste avant de partir. L'implantation ne s'est jamais faite à ce moment-là parce que voilà, c'était la personne, c'était le lien. Voilà. Et donc, on est en lien, on visite des gens, on a des liens dans plusieurs pays de la région du Moyen-Orient, et on a organisé il y a quelques années à Marseille un séminaire de travail autour justement de comment on fait pour quand se rencontrent ceux qui, en divers pays du bassin méditerranéen, se font proches des plus pauvres. Chronique du séminaire de Méditerranée qui existe aussi en arabe, et on publie une lettre, cette lettre du Forum du refus de la misère, dans plusieurs langues, y compris l'arabe, pour soutenir des gens qui, dans cette région, comme en d'autres régions, se disent bah, comment on va faire pour ne laisser personne de côté.
Dernière question, on a beaucoup parlé de l'action du mouvement ATD Quart-Monde qui a été créé par un prêtre. C'est un mouvement proche du catholicisme, ou bien est-ce que c'est un mouvement laïque où tout le monde est le bienvenu?
L'expression qu'on utilise quelquefois entre nous est un peu longue et compliquée, mais confessionnelle et philosophique. C'est une façon de dire tout homme est habité d'esprit. Tout homme a un projet, a un regard sur le monde, on peut dire aussi une spiritualité, quelles que soient les racines dans lesquelles elle prend sa source. Alors c'est ça, c'est un espace où de rencontre, et où la vision de la vie, qui peut être une foi religieuse, a aussi pleinement sa place. Les familles très pauvres ont aussi le droit d'être rencontrées sur ce terrain-là. En ce sens-là, nous ne sommes pas, à proprement parler, un mouvement laïque qui mettrait de côté cette dimension-là. Mais aujourd'hui, bon, on est un mouvement qui a démarré en France, en Europe, où il y a de ce fait-là une composition qui reflète ses origines, mais qui de plus en plus est rejoint par des volontaires et des alliés, des amis musulmans, bouddhistes ou sans religion, ou dans une recherche personnelle d'une harmonie entre leurs idées, leur vie et leurs relations avec les autres.
Merci Xavier Verza. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Centre international Joseph Wredinski. Nos auditeurs peuvent bien sûr avoir plus de renseignements en allant sur Internet.
Et surtout qu'ils n'hésitent pas à venir nous aider. On a besoin d'aide pour toutes sortes de tâches, aussi bien au Centre Joseph Wredinski que dans notre mouvement ATD Quart Monde. On peut nous contacter au 01 42 46 81 95. À
merci,
bientôt.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.